France Info.
Bonjour Olivier Faure.
Bonjour Marc
Le Premier ministre Édouard Philippe va donc livrer tout à l'heure à l'Assemblée son deuxième discours de politique générale. En quelques mots, qu'en attendez-vous, qu'en espérez-vous ?
En un seul mot, rien. Rien parce que, en réalité, il va d'abord être jugé sur ce qu'il a fait depuis 2 ans. Et la politique qu'il conduit est une politique qui ne trompe plus personne, c'est une politique de droite. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les électeurs de droite se sont massivement reportés sur La République En Marche au moment des élections européennes. Donc les choses sont désormais assez claires. La droite s'est choisie son champion, qui d'ailleurs fait tout pour leur répondre. Et donc, pour l'homme de gauche que je suis, comme dirait quelqu'un d'autre, le compte n'y est pas. Et donc, on peut ici ou là trouver des réformes qui peuvent convenir à tout le monde. Mais pour l'essentiel, cette politique est une politique injuste, une politique qui nie en fait le désir de cohésion sociale qui est dans ce pays immense. Et donc, effectivement, il y a peu à attendre de ce président et de ce Premier ministre qui ont déjà annoncé, dès avant cet après-midi, que le cap ne changerait pas.
Renaud Dely.
Du côté de l'exécutif, on évoque un changement de méthode, davantage d'écoute. Emmanuel Macron en a d'ailleurs parlé hier. Il a fait en quelque sorte déjà son mea culpa à l'occasion du centenaire de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. C'était à Genève.
Le peuple français ne se résout jamais. Et lorsqu'il dit avec force ce qu'il a dit, je crois qu'il faut avec beaucoup d'humilité savoir écouter, savoir constater ce qu'on a mal fait. Mais nous avons peut-être parfois construit des bonnes réponses trop loin de nos concitoyens, ou en considérant qu'il y avait des sachants et des subissants. Et je pense que c'était une erreur fondamentale.
Est-ce que ça, c'est pas une inflexion à venir, justement, une preuve d'humilité du pouvoir d'Emmanuel Macron et donc d'Édouard Philippe aujourd'hui lors de son discours de politique générale ?
Franchement, Renaud Dely, vous trouvez que c'est un mea culpa ? Le président qui dit dans une même phrase, en fait, on a tout bien fait, mais finalement, c'est ce qu'il dit. Il dit, nous avons pris les bonnes solutions, mais nous n'avons pas été compris, pas entendus, il faut changer de... Voilà, ça c'est un discours
il
que l'on connaît par
cœur. Il reconnaît qu'il y a une forme de distance, voire de mépris, de la part des sachants parmi lesquels...
Ce n'est pas la première fois qu'il explique qu'il a peut-être été plus loin, enfin ses mots l'ont dépassé sa pensée, etc. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Le problème, ce n'est pas tellement les mots qu'il prononce, et devant l'OIT, il a été même capable de dire qu'on vivait un moment où le capitalisme était devenu fou.
Vous êtes d'accord avec lui quand il dit ça ?
Sur le constat, on ne peut qu'être d'accord, mais la vérité, c'est que rien ne change pour autant. Ce qu'il faudrait dans ces cas-là, c'est qu'il y ait des actes qui suivent les paroles, mais c'est tout l'inverse qui se produit. Il nous dit qu'il faut une société plus juste, mais que n'a-t-il fait depuis 2 ans ? Pourquoi a-t-il cherché à ponctionner les plus faibles et fait des cadeaux aux plus riches ? Ce sont des questions que tout le monde peut se poser, c'est assez légitime. Moi, je veux bien qu'il soit l'homme de toutes les meilleures interventions, les rédactions, etc. Mais quand les mots ne suivent jamais, enfin quand les actes ne suivent jamais les mots, il y a des questions à se poser.
Les critiques que vous faites aujourd'hui à Emmanuel Macron, on a entendu les mêmes pendant 5 ans venant d'une partie des bancs de la gauche et du Parti Socialiste contre François Hollande. Est-ce qu'Emmanuel Macron est plus à droite que l'ancien président socialiste ?
Incontestablement. Enfin, franchement...
Les mots étaient quasiment les mêmes.
Non mais... Prenez le quinquennat précédent sur la question de la justice fiscale. Que s'est-il passé ? Nous avons rétabli l'impôt sur la fortune. Nous avons imposé au même barème les revenus du travail et du capital. Nous avons supprimé les premières tranches de l'impôt sur le revenu pour alléger la fiscalité des plus modestes.
Vous avez fait le CICE aussi et des baisses des charges immenses pour les entreprises.
Nous avons fait aussi le CICE à un moment où les marges, les taux de marge des entreprises étaient parmi les plus faibles d'Europe et où il fallait, pour pouvoir retrouver la compétitivité, effectivement faire ce choix.
Vous avez réformé la loi travail aussi.
Oui, mais là-dessus, enfin, je vous rappelle que il y a quelques mois, j'ai fait, pour ce qui concerne les socialistes, l'inventaire dans lequel je suis revenu sur le CICE en expliquant que, de notre point de vue, il aurait fallu le conditionner à une négociation annuelle entreprise par entreprise pour que cet argent public soit utilisé de la meilleure des façons dans les entreprises. J'ai dit que sur la loi travail, il y avait eu plus qu'une erreur, une faute.
Et vous n'avez pas fait la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut aujourd'hui rouvrir le chantier alors que le déficit...
Mais nous avons fait la réforme des retraites. Nous avons même introduit la pénibilité au travail, ce qui était une première dans l'histoire donc des retraites. Et je vois que c'est ce gouvernement qui est revenu dessus et qui considère qu'on peut être exposé aux matières dangereuses, qu'on peut être exposé aux portes report de charges lourdes sans que ça ait de conséquences sur l'âge de la retraite. Et c'est même l'inverse qui va se produire, puisque on nous promet maintenant un âge pivot à 64 ans qui va avoir pour effet de conduire en fait des salariés âgés pour l'immense majorité au chômage, attendre 64 ans pour avoir une retraite à taux plein. C'est ça la réalité
de ce
gouvernement.
Et donc, c'est la raison pour laquelle Olivier Faure, des retraites sera de l'ordre de 10 milliards d'euros en 2022, c'est-à-dire quasiment demain. Vous, aujourd'hui, vous ne toucheriez pas au système.
Mais la question prioritaire dans ces cas-là, c'est la question de l'emploi. Si vous avez des cotisations qui rentrent, vous avez effectivement une balance qui s'équilibre.
Le scénario Conseil d'orientation des retraites prévoit déjà, mais est moi, assez optimiste. Quand... Il considère qu'il y aura une croissance d'au moins 1,5%. Avec cette croissance-là, et avec une baisse du chômage en France, on a 10 milliards d'euros.
Moi, ce que je vois, c'est que, en permanence, ce gouvernement baisse le niveau des cotisations, ou en exonère les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle vous avez un trou qui peut effectivement s'élargir. Mais la question prioritaire s'agissant des retraites, c'est de créer de l'emploi qui permette d'avoir plus de cotisants et de résoudre de cette façon-là
Pour vous, il ne faut pas sujet. Que les Français travaillent plus longtemps.
Mais plus longtemps, enfin, regardez les moyennes européennes, regardez ce qui se passe. Nous sommes déjà parmi ceux qui travaillons beaucoup.
L'âge légal dans de nombreux pays européens est aujourd'hui fixé à 65 ans. Ce n'est pas le cas en France où il est à 62 ans.
Félicitons-nous du fait que nous ayons un modèle social qui soit un modèle qui puisse être un modèle pour le reste de l'Europe, oui.
Même si on est les seuls à le défendre.
Écoutez, s'il est en déficit.
Si vous voulez vous aligner à chaque fois sur le moins 10 ans, allez plus loin que l'Europe. Et vous verrez qu'il y a même des gens qui n'ont pas de retraite. Et vous verrez même qu'il y a des gens qui travaillent jusqu'à la fin de leur jour. Si c'est ça l'objectif, si c'est toujours de s'aligner sur le pire, moi je ne suis pas d'accord effectivement. Nous avons un modèle français qui a permis de résister et qui a, parce que nous sommes un pays riche et qui a les moyens aussi d'avoir une politique sociale ambitieuse. Et donc je considère effectivement que nous n'avons pas à chercher toujours à nous aligner sur le moins 10 ans. Dans
l'objectif affiché par le gouvernement. Et Édouard Philippe devrait en parler évidemment cet après-midi lors de son discours, c'est celui aussi de l'équité, notamment en supprimant les 42 régimes existants pour passer à un système universel par points. Vous êtes défavorable, hostile à cette logique ?
Je ne suis pas hostile par principe à cette logique. Simplement, je dis que je reprends sur la question de la pénibilité. Si vous considérez que c'est la même chose de travailler à l'usine avec un marteau-piqueur ou être un col blanc dans un bureau, prof d'université ou je ne sais quoi encore, ou député.
Donc il faut garder les 42 régimes existants.
Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a une distinction à faire entre les métiers. Vous ne pouvez pas considérer que quelqu'un qui a un métier très pénible est quelqu'un doit être traité de la même façon que celui qui a un métier qui n'impose pas, par exemple, une érosion physique. Quand vous voyez de quelle manière arrivent les gens qui ont travaillé dans le bâtiment, qui ont été à genoux toute leur vie parce qu'ils sont carreleurs, parce que vous avez des gens qui ont le dos cassé parce qu'ils ont été maçons, etc. Vous ne pouvez pas considérer que c'est la même chose que celui qui a été, je reprends l'exemple du parlementaire, même si parfois c'est pénible, mais pour d'autres raisons. Donc il y a en fait une vraie distinction à opérer. Si vous considérez que tout le monde doit partir au même moment, dans les mêmes conditions, etc., là effectivement je n'en suis pas non plus, parce que il y a une espérance de vie qui est très différente entre celui qui a travaillé toute sa vie en plein air, celui qui a été préservé des aléas de l'existence. Et donc, oui, il y a des différences de traitement à opérer aussi pour ces raisons-là.
Olivier Faure, vous restez avec nous sur France Info. On s'interrompt quelques instants à 8h41 pour le rappel de l'actualité. C'est avec David Doba.
La France a traversé une crise très dure, une souffrance s'est exprimée. Face à elle, je veux remettre de la proximité, de l'humanité, ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans une interview accordée aujourd'hui à nos confrères de la RTS. Emmanuel Macron qui se dit par ailleurs prêt à soutenir Angela Merkel à la présidence de la Commission européenne. Accélération de l'ambition environnementale et sociétale, baisse de 5 milliards d'impôts sur le revenu, réforme des retraites. Édouard Philippe devant les députés, à 15h précisément, il présentera sa deuxième déclaration de politique générale. La prise d'otage de deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe a finalement duré près de 5 heures. Peu après minuit et demi, Francis Dorfer, un homme de 35 ans, s'est rendu. Sur France Info ce matin, son avocat affirme que l'administration pénitentiaire a eu de nombreux torts. Ouverture aujourd'hui d'un vaste procès, celui d'un système de corruption chez EDF. 42 prévenus jugés pendant un mois devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Un cadre du groupe aurait notamment perçu plus d'un million d'euros. Et puis, la réunion pourrait être particulièrement houleuse. La direction de Renault sous le feu des actionnaires cet après-midi à l'occasion d'une assemblée générale. Alliance avec Nissan, annulation du projet de mariage avec Fiat Chrysler. Les sujets de discorde ne manquent pas.
France Info.
Toujours avec le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, le gouvernement a-t-il raison, si ça se confirme cet après-midi, de donner la possibilité à toutes les femmes d'avoir accès à la PMA, puisque c'est l'une des mesures attendues dans le discours de politique générale d'Édouard Philippe?
Oui, sur ce point, je suis d'accord avec le président de la République, et ça fait partie des engagements que nous avions nous-mêmes pris pour l'élection présidentielle.
C'est une mesure d'avancée de la société?
De reconnaissance pour des couples de femmes ou mères célibataires qui ont effectivement aussi droit à l'amour et à l'affection, et donc qui ont aussi le droit, la possibilité d'avoir des enfants. Et aujourd'hui, elles le font de manière illégale, elles vont à l'étranger pour le faire, et donc c'est une reconnaissance utile.
Vous entendez ce que cette ouverture inquiète également?
Bon, y a des gens qui sont toujours inquiets de tout. Et qui considèrent que, en dehors de procédés naturels, rien n'est possible. Moi, je crois au contraire que les possibilités qui nous ont été offertes par la science ont permis aussi des avancées qui sont positives.
Ceux qui estiment notamment que la PMA aboutira forcément un jour à la GPA, et donc à la location, pardon pour ce terme horrible, de ventre.
Mais il y a des gens qui, depuis le début, cherchent à nous présenter ce qui serait l'objectif final pour pouvoir faire craindre et chercher à chaque fois à éviter ce qu'ils considèrent comme des avancées contre nature. Ils nous l'ont déjà dit au moment du Pax, ils nous l'ont encore redit au moment du mariage pour tous. Et donc, ils le diront pour la PMA. Qu'importe. En fait, regardez ce qui se passe. Le mariage pour tous a été présenté comme une forme d'abolition de la famille, que tout allait être révolutionné, que nous allions... Enfin, c'était l'apocalypse. Mais qu'en est-il?
Je comprends pas votre logique. Vous êtes totalement hostile, vous, à la GPA? Là aussi, c'est une possibilité offerte par la science.
Je suis contre la marchandisation du corps des femmes. Et donc, il me paraît... plus que discutable, il me paraît impossible d'accepter que demain, il y ait des femmes qui louent leur ventre, et de la même façon qu'on
ne peut pas vendre ses organes. Si on interdit une rémunération.
C'est le cas en Angleterre.
Est-ce qu'une GPA, avec des cadres, qui interdirait toute relation monétaire ou tout, je sais pas comment dire ça. Toute transaction serait possible pour vous?
Quand il n'y a pas de transaction monétaire, quand vous avez une sœur qui veut porter l'enfant de sa sœur, parce qu'elle ne peut pas en avoir, parce qu'elle a un problème à l'utérus, parce que, etc., ça ne me paraît pas fou. Ça me paraît même une forme d'humanité. Et on accepte le don d'organes, ça peut être vécu comme, effectivement, un formidable geste, là aussi, d'amour. Donc, quand il n'y a pas de transaction financière, et encore une fois, c'est pratiqué chez nos amis britanniques, et c'est très rare, en réalité. Ça ne me paraît pas impossible et inimaginable.
Sur la PMA, dernier mot, il y aura liberté de vote à l'Assemblée nationale pour les députés socialistes? Vous souhaitez une consigne très claire et un vote, oui, un franc
non, et massif? Sur ces questions-là, il n'y a jamais de... Enfin, quand ça fait appel
à des questions éthiques,
et donc, en réalité, il y a toujours une liberté de vote. Mais l'immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité... seront sur la position que je viens de défendre.
Renaud Dely.
Édouard Philippe va détailler cet après-midi aussi le montant des baisses d'impôts et les catégories qui seront visées. En l'occurrence, l'exécutif a annoncé 5 milliards de baisses d'impôts. A priori, ce sont surtout les deux premières tranches, mais en tout cas, 90% des contribuables devraient être concernés. Est-ce que vous approuvez ces baisses d'impôts si elles profitent effectivement aux contribuables les plus modestes et aux classes moyennes?
Bon, difficile d'être a priori contre. Et il y a quand même deux questions que je me pose. La première, c'est que fait-on de ceux qui ne sont pas contribuables à l'impôt sur le revenu, qui le sont pour la CSG, qui le sont pour la TVA, etc., mais qui ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu.
Par exemple, ils ont la baisse de la suppression de la taxe d'habitation qui est en cours, qui est promise par le gouvernement.
Mais quand ils la payent, quand ils ne la payent pas, c'est rien, c'est nada. Et donc le problème, c'est en fait le fait d'avoir complètement oublié cette moitié de France qui,
en réalité, est celle qui a pris la prime d'activité pour certains d'entre eux, Olivier Faure.
Qui est très légère par rapport à ce que l'on propose pour les autres.
Et donc, il y a
un oubli dans cette nouvelle tranche de mesures qui est quand même cette France qui ne paye pas d'impôt sur le revenu. Ensuite, la question qui est posée, c'est sur quoi va-t-on financer ces 5 milliards? Si vous les financez sur, par exemple, le retour de l'impôt sur la fortune, je dis Très bien.
Ça n'a pas l'air si d'être c'est... dans les tuyaux. Sans
ça n'a pas l'air dans les tuyaux, c'est vrai. Mais justement, si c'est pour avoir une baisse des services publics, si c'est pour avoir moins de médecins dans les urgences, si c'est pour avoir moins de surveillants dans les prisons, si c'est pour avoir moins d'enseignants dans les écoles, alors qui, en réalité, en sera bénéficiaire? C'est la question qu'il faut se poser.
Le gouvernement veut supprimer certaines niches qui bénéficient aux entreprises. Est-ce que vous êtes favorable à cette logique-là?
Cette logique-là. Mais enfin, vous aurez noté qu'ils sont sur les 5 milliards à 1 milliard sur les niches pour les entreprises. Il y a 4 milliards à trouver par ailleurs et qui seront des économies qui seront réalisées sur les services publics. À un moment où on n'arrête pas d'avoir des gens qui manifestent semaine après semaine pour dire leurs difficultés, car c'est leur métier, et à maintenir tout simplement l'accès aux soins pour prendre les urgentistes, il y a des questions à se poser.
Mais il n'y a pas d'urgence pour vous à se tourner vers les classes moyennes comme prétend le faire
mais
le gouvernement?
Bien sûr que si, mais la vraie question c'est à chaque fois sur qui on prend cet argent. C'est qui paye? C'est comme pour la question de la transition écologique. Il n'y a pas de... Moi, tout le monde est devenu écologiste. Très bien, tant mieux. Simplement, c'est qui paye la transition? Et ce sont toujours les mêmes à qui on demande les efforts. Et c'est la raison pour laquelle c'est compliqué d'approuver comme ça, aveuglément, des mesures qui vont être soldées.
Pour vous, c'est le rétablissement de l'ISF. Il faut faire payer les plus riches.
Mais moi, je souhaite
l'ISF... Est-ce qu'il faudrait rétablir l'impôt à 75% qui avait été créé par François Hollande en 2012 après son élection?
Mais là, comme vous le savez, cette taxe a été une taxe temporaire et qui ne portait pas d'ailleurs sur les contribuables eux-mêmes, mais sur les entreprises qui les finançaient pour des raisons constitutionnelles.
Mais pour financer cet effort pour les classes moyennes ou pour les plus modestes?
Moi, je souhaite qu'on ait un impôt qui soit plus progressif, où il y ait peut-être plus de tranches, pour qu'on ait en fait une capacité à mieux appréhender l'effort pour chacun. Je souhaite qu'on revienne sur la flat tax et qu'on fasse en sorte que désormais, enfin plutôt à nouveau, capital et travail soient imposés au même niveau. C'est pas normal que quelqu'un qui vit de sa rente soit moins imposé que celui qui vit de ses revenus du travail. Je souhaite que les entreprises comme les GAFA, les multinationales, payent leurs impôts à l'endroit où elles réalisent leurs bénéfices, c'est l'impôt Zucman, du nom de son auteur.
Et c'est la France qui est en train de mettre en place la taxe sur les GAFA, mais seule ou presque, en Europe.
Mais vous aurez noté là aussi qu'on est dans un trompe-l'œil. En fait, on va retenir 400 millions d'euros sur ces GAFA.
Ramenez toujours au quinquennat précédent, François Hollande ne l'a jamais fait.
Mais il a fait autre chose.
Non mais sur les GAFA.
Bien sûr, si vous pouvez...
La France est seule à le faire, on est prêt à se fâcher avec les Allemands qui n'en veulent pas, et on peut toujours trouver que c'est pas assez, mais on est quand même les seuls pour l'instant.
Mais je vous dis, en fait, regardez quand même ce que ça représente. On a, je vais pas rentrer dans la technique, mais en fait, on taxe un tout petit morceau de l'activité des GAFA. L'immense majorité ne sera pas touchée, alors que ces gens réalisent des bénéfices en France... qu'ils ne peuvent pas. En réalité, en fait, si on les imposait davantage, ils ne partiraient pas pour autant. Ils font leurs bénéfices ici. On leur demande simplement de payer des impôts à l'endroit où ils réalisent leurs bénéfices. C'est quand même juste un principe de bon sens. Et cet argent-là, c'est celui que vous ne prélèverez plus sur toutes les autres catégories de Français. Et donc, il y a un moment, il faut faire des choix. Et moi, je veux bien qu'on dise, on est les seuls, etc. Mais c'est très bien. Mais c'est pas la première fois que nous sommes les seuls à faire un certain nombre de choses. Et nous sommes parfois un exemple pour les autres. Parce que vous croyez que les autres pays européens n'ont pas un problème de rentrée d'argent et qui n'auront pas aussi la possibilité, quand ils auront cet exemple sous les yeux, des Espagnols, des Portugais, des Allemands, des Italiens qui demanderont à leurs gouvernants de faire la même chose parce qu'ils considéreront qu'il vaut mieux ponctionner les GAFA ou les multinationales de manière générale plutôt que ponctionner les nationaux.
8h51, Olivier Faure, le patron du PS, est avec nous jusqu'à 9h. On s'interrompt quelques instants pour l'actualité de ce mercredi matin avec David Daubard.
Il était signalé comme particulièrement dangereux. Sixième prise d'otage pour un détenu de la prison de Condé-sur-Sarthe hier. Il retenait deux surveillants qui ont retrouvé la liberté sain et sauf. Il s'est rendu finalement peu après minuit et demi. Elle est considérée comme le point de départ de l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron. Nouvelle déclaration de politique générale d'Edouard Philippe devant les députés. Ce sera cet après-midi à partir de 15h. Après l'Assemblée, le Sénat adopte le projet de loi santé porté par Agnès Buzyn. Avant le vote solennel, les sénateurs sont revenus sur l'allongement de 2 semaines des délais de l'IVG. Le Sénat qui adopte par ailleurs en première lecture une proposition de loi pour améliorer la lutte contre l'habitat insalubre et dangereux. Notez que le texte propose notamment la création d'une police spéciale du logement. Les hommes de Didier Deschamps ont retrouvé le chemin de la victoire. Hier, ils se sont imposés 4-0 à Andorre. De leur côté, les Françaises sont de retour sur la pelouse. Ça se passera évidemment ce soir. Deuxième match dans le cadre de la Coupe du Monde féminine de foot. À 21h, elles affrontent à Nice les Norvégiennes.
France Info.
Olivier Faure, Emmanuel Macron était interrogé hier par nos confrères de la RTS, la radio-télévision suisse, et il a eu cette petite phrase au sujet d'Angela Merkel.
Je ne veux pas m'engager pour Angela Merkel, pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Ouais.
Elle ferait une bonne présidente de commission ?
Le voudrait-elle ? Je la soutiendrai.
Pas sûr. Vous la soutiendriez ?
Ah, bien sûr, parce que je pense qu'il faut quelqu'un de fort. Je pense que l'Europe a besoin, d'abord, l'Europe a besoin de nouveaux visages et de visages forts.
On est dans la politique fiction, hein, puisque, à notre connaissance, la chancelière allemande n'est pas candidate à la tête de la Commission européenne. Ça vous surprend, ces mots du président ?
Non, ça ne me surprend pas. La réalité, c'est que, en fait, Emmanuel Macron joue les progressistes dans les mots, mais que, dans la réalité, il est effectivement l'allié de Mme Merkel depuis 2 ans.
Ça ne s'est pas beaucoup vu dans les relations entre la France et l'Allemagne. La chancelière elle-même a dit il y a quelques semaines qu'elle était en froid, qu'il lui était arrivé d'être en froid assez régulièrement avec Emmanuel Macron.
Il leur arrive l'un comme l'autre de mettre en scène leurs désaccords, mais pour l'essentiel, je n'ai pas le sentiment qu'on ait vécu en fait un affrontement violent entre Madame Merkel et Monsieur Macron, même si je comprends aussi que la diplomatie a ses droits et que on ne peut pas non plus être dans un affrontement permanent et que le couple franco-allemand est l'un des moteurs de l'Union européenne et donc que ça suppose un minimum de diplomatie, de capacité à ranger les bidons. Mais enfin, je ne suis pas
ranger les bidons.
Oui,
ça veut dire quoi, pardon ?
Ça veut dire que pour que ça avance, effectivement, on évite parfois la confrontation totale. Et je ne veux pas ici laisser penser que je voudrais que le président s'affronte en permanence à la chancelière et bloque l'Union européenne. Mais la vérité, c'est quand même que sur l'essentiel, je pense qu'il partage la même vision de la société européenne.
Alors, est-ce que pour que ça avance aussi au sein de la gauche française, il faut éviter la confrontation, Olivier Faure ? Lors des élections européennes, on a vu une gauche atomisée, avec des scores assez peu reluisants, à part le score de Yannick Jadot et des écologistes, et notamment la France insoumise, qui est à peu près au même niveau que le PS, autour de 6%. Est-ce que vous avez, depuis le résultat des élections européennes, eu des contacts, des nouvelles de Jean-Luc Mélenchon, qui est pour l'instant toujours silencieux ?
Non, je ne l'ai pas encore revu, mais...
Vous souhaitez le voir ?
Oui, je souhaite le voir, comme je souhaite voir l'ensemble des acteurs à gauche, parce que, comme vous le dites, nous avons vécu un immense paradoxe. En fait, dans cette élection européenne, il y a eu un match organisé entre Madame Le Pen et Monsieur Macron, qui ont réalisé l'un et l'autre des scores au-dessus de 20%, mais la gauche rassemblée aurait été à plus de 30%. Et donc, ce qui saisit, c'est qu'on se dit, mais pourquoi diable serions-nous là à dérouler le tapis rouge sous les pieds des nationalistes et des libéraux, alors que nous avons la possibilité,
donc,
ensemble...
Est-ce que ça a un sens, Olivier Faure, mais d'additionner aujourd'hui les voix mélenchonistes et vos voix, par exemple, est-ce que ces deux gauches-là vous semblent réconciliables un jour, pourquoi pas dans l'optique de la présidentielle ?
Mais je pense que les aspirations des électrices et des électeurs qui aujourd'hui font confiance aux uns ou aux autres pour la gauche ou pour l'écologie, oui, il y a des points communs, des combats communs qui sont évidents et donc qui supposeraient que l'on fasse l'effort les uns et les autres de chercher les voies qui permettent le rassemblement et c'est la seule façon d'avancer et de refuser ce match qui nous est promis pour les décennies qui viennent entre Macron et Le Pen.
Est-ce que le mot populisme vous fait peur, Olivier Faure ?
Aucun mot ne me fait peur, mais le populisme en tant que tel n'est pas une voie que j'accepterais de suivre.
C'est la ligne de la France insoumise, en tout cas revendiquée comme telle.
Oui, c'est la raison pour laquelle je leur dis depuis le départ que l'une des conditions au rassemblement large, c'est de pouvoir abandonner cette notion de populisme qui sonne peut-être... qui sonne parfois juste parce que le mot donne le sentiment que c'est populaire, mais cette façon de considérer qu'il y a un « nous » et un « eux », qu'il y a des élites qui seraient forcément coupables et un peuple qui serait forcément vertueux, qui s'incarnerait dans un chef qui serait lui-même le guide de l'ensemble, ne me paraît pas être la bonne solution démocratique. Et même tourne le dos à la tradition française qui est au contraire, depuis la Révolution française, le mariage entre une part de ces élites précisément et le peuple. Et donc, moi, je suis un enfant des Lumières et je considère que c'est cette voie-là que nous devons suivre et non pas celle d'une opposition que je trouve très artificielle et très dangereuse et qui conduit à une forme de démagogie que je réprouve. Mais je ne pense pas qu'il n'y ait que démagogie et que populisme, y compris parmi les dirigeants des Insoumis. Il y a des gens qui, effectivement, ont une réflexion qui mérite d'être entendue.
Est-ce qu'il y a un homme aujourd'hui ou une femme qui pourrait être à même, selon vous, de rassembler toutes ces gauches ?
Mais je crois surtout que la question que vous allez me poser, enfin que vous êtes en train de me poser, est une question prématurée. À force de se poser la question de qui, on en finit par oublier comment et quoi. Et donc, la première étape, c'est d'arriver à rassembler la gauche sur des combats communs.
Le combat, c'est l'écologie, non, aujourd'hui ?
Ben, notamment, effectivement.
C'est Yannick Jadot, les écologistes, qui devraient avoir le leadership et porter ce combat commun.
Ben, il y a une responsabilité de la part d'Yannick Jadot aujourd'hui, et je trouve ça très curieux de sa part. Les écologistes ont été, pendant des décennies, des gens qui ont lancé des alertes, souvent dans le désert, et qui n'ont pas été entendus. Heureusement, le GIEC est passé par là, et donc on a aujourd'hui une prise de conscience qui est assez générale et qui vaut y compris pour nous, enfin pour moi, pour il y a beaucoup de gens qui ont évolué dans sur la question écologique. Et donc la question
donc,
maintenant.
Le PS est dans le désert, donc on appelle aux écologistes. C'est ça,
non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que il y a une prise de conscience qui, je l'espère, est assez générale et qui maintenant suppose une action qui soit en fait à la hauteur de ce qu'est le danger qui nous menace. Mais donc après avoir lancé l'alerte, la question c'est comment est-ce qu'on mène des politiques avec une assise majoritaire. Et donc 13 ennemis, c'est formidable pour les écologistes, il faut s'en féliciter pour eux.
Mais ça fait pas une majorité.
Mais ça ne fait pas une majorité. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on mène à un moment donné des politiques qui ne peuvent pas être les politiques libérales, parce que on le voit bien, c'est ce que Nicolas Hulot a dit en partant, eh bien le libéralisme et l'écologie, ça ne peut pas faire bon ménage.
Merci à vous Olivier Faure, secrétaire du Parti Socialiste.